Laudetur Jesus Christus.
Scène de chaos à Nairobi cet après-midi autour du Parlement. Une manifestation contre le projet de budget national a dégénéré. Au moins 5 morts et une trentaine de blessés dans les affrontements entre protestataires et police. Le long chemin des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne débute. Une grande satisfaction pour Kiev, qui se réjouit aussi de l'émission aujourd'hui de mandat d'arrêt de la CPI contre l'ancien ministre russe de la Défense et le chef d'état-major de l'armée russe. Un 500 000 de Palestiniens dans une situation catastrophique selon l'UNRWA. Son commissaire général dénonce aussi les mutilations dont sont victimes les enfants dans la bande de Gaza. Nous l'entendrons dans ce journal. Et puis suite de la visite du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin au Liban à l'invitation de l'Ordre de Malte, nous verrons que la collaboration entre chrétiens et musulmans en faveur des plus défavorisés fonctionne dans ce pays où l'État est paralysé par une crise politique insoluble.
Radio Vatican, le journal. Xavier Sartre.
Bonsoir. Le chaos en pleine capitale. À Nairobi, au Kenya, la manifestation prévue aujourd'hui contre le projet de budget du gouvernement qui prévoit de nouvelles taxes a dégénéré. Au moins 5 personnes ont été tuées et 31 blessées selon plusieurs ONG dont Amnesty Kenya. Depuis une semaine, la jeunesse se mobilise contre ce projet de loi qui prévoit de nouvelles taxes. Cette jeunesse est descendue par dizaines de milliers dans la rue aujourd'hui dans plusieurs villes du pays. Mais à Nairobi, la capitale, la tension est montée progressivement au fil de la journée pour se transformer en émeute en l'espace de quelques heures. Les précisions sur place de notre correspondante Alban Tiroir.
De premières échauffourées entre policiers et protestataires ont éclaté à la mi-journée dans le centre-ville de Nairobi. Puis dans l'après-midi, les manifestants sont rentrés dans le Parlement où les députés venaient de voter en faveur du projet de loi de finances publiques très contesté. Les manifestants ont forcé les barricades de police, certains en jetant des pierres. La police, elle, a tenté de contenir cette foule en tirant à balles réelles. La télévision kényane a diffusé des vidéos montrant plusieurs corps inanimés au sol. La police a depuis repris le contrôle de l'enceinte du Parlement. Des images montrent des salles saccagées avec du mobilier renversé. Un incendie a également été déclenché dans les bureaux du gouverneur de Nairobi, à quelques rues du Parlement. Les manifestants, à très grande majorité des jeunes, étaient venus par dizaines de milliers et ont afflué toute la journée dans le centre-ville de la capitale, malgré les tirs de gaz lacrymogène, de canons à eau et de balles en caoutchouc par la police. Au-delà de l'abandon de la loi de finances publiques, ils ont appelé à la démission du président William Ruto au son des sifflets et des vouvouzela. Beaucoup, des étudiants notamment, se disent inquiets pour leur avenir. En fin de journée, ils étaient tous profondément choqués par la violence de la réponse policière. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican.
Et puis le dernier, au même moment, le premier contingent de policiers kényans est arrivé en Haïti, à Port-au-Prince. Le Kenya en effet fournit la majeure partie de la force sous bannière de l'ONU qui doit rétablir l'ordre dans la capitale haïtienne aux mains des gangs depuis plusieurs mois maintenant. En tout, 1 000 000 de policiers kényans doivent y être déployés. Des renforts du Bangladesh, du Bénin, du Tchad, des Bahamas et de la Barbade doivent arriver dans les prochaines semaines. Fin de la mission de l'ONU en revanche au Congo. Une nouvelle étape du retrait des casques bleus a eu lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la fermeture du bureau de la MONUSCO à Bukavu, quartier général de ses opérations dans le sud Kivu, cela faisait plus de 20 ans que la mission onusienne était en place. Les prochaines étapes concerneront maintenant le nord Kivu et l'Iturie. En Europe, 2 nouvelles qui viennent donner un peu de baume au cœur des Ukrainiens. La première, connue depuis plusieurs jours, c'est l'ouverture officielle des négociations d'adhésion à l'Union européenne, donc avec Bruxelles. La seconde, une décision de la Cour pénale internationale concernant de hauts responsables russes, en rapport bien sûr avec la guerre en Ukraine. Et dans les deux cas, donc, Jean-Benoît Harel, Kiev est satisfait.
Oui, en effet, Xavier, parce que d'abord, l'ouverture officielle des négociations avec l'Union européenne est un jour historique. C'est ce qu'a, en tous les cas, déclaré le président Volodymyr Zelensky. Mais ce n'est que le début d'un long processus, voire très long. La première étape devrait durer entre 1 et 2 ans. Ce sera d'abord de vérifier la compatibilité de la législation nationale avec les règles de l'Union européenne. Toutefois, il est probable que le début de la procédure effective puisse être repoussée encore à début 2025. La Hongrie de Viktor Orban, peu favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, prend les rênes de la présidence du Conseil de l'Union européenne de juillet à décembre septembre 2024. Et puis ensuite, deuxième bonne nouvelle du jour, sans lien avec la précédente, la décision de la Cour pénale internationale d'émettre deux mandats d'arrêt contre l'ex-ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, et de l'actuel chef de l'état-major général russe, Valéry Gerasimov. Une sentence internationale qui constitue une décision importante selon la présidence ukrainienne, mais qui n'inquiète pas la Russie, qui la juge même insignifiante, et pour cause, le chef de l'état russe Vladimir Poutine lui-même est sous mandat d'arrêt depuis une quinzaine de mois, ce qui ne l'empêche pas d'être déterminé à poursuivre son avancée dans les territoires en Ukraine. En effet, aujourd'hui, Xavier, l'armée ukrainienne a exigé l'évacuation forcée des enfants et de leurs parents de 5 villages près de Donetsk, à l'est du pays, sous la pression continue des bombardements russes.
Jean-Benoît Harel, et les Russes auront-ils eu le temps de lire, voir ou entendre les analyses de la presse occidentale concernant ces deux nouvelles que nous venons de voir? Eh bien, pas sûr, puisqu'ils ne peuvent plus avoir accès depuis leur territoire à 81 médias européens, une mesure prise par le gouvernement russe en représailles à la décision prise en mai dernier par l'Union européenne d'interdire 4 médias d'État russe parmi nos confrères qui sont concernés, l'agence France Presse, les quotidiens Le Monde, Libération, les chaînes LCI et CNews. Des chiffres, des statistiques qui rendent compte de la tragédie que vivent les civils palestiniens de la bande de Gaza, se donner ce midi depuis Genève par Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens. Selon lui, près d'un 500 000 de personnes souffrent toujours de la faim à un niveau catastrophique dans le territoire palestinien dévasté par la guerre. Et cela n'est guère surprenant au vu de la difficulté constante d'apporter de l'aide humanitaire. Autre population largement frappée par les combats, les enfants. Et là aussi, le rapport du commissaire général de l'UNRWA est édifiant. Philippe Lazzarini.
It's becoming more and more...
La situation devient de plus en plus compliquée. Ces dernières semaines, l'acheminement de l'aide a été extraordinairement pénible. Beaucoup trop de camions ont été pillés et ne sont pas arrivés à bon port. Le nombre de points de passage reste beaucoup trop limité. En fait, nous sommes aujourd'hui confrontés à un effondrement presque total de l'ordre public. Les chauffeurs de camions sont régulièrement menacés ou agressés et ils sont de moins en moins disposés à acheminer l'aide de la frontière vers nos entrepôts et des entrepôts vers la population. Concernant les enfants, les chiffres sont stupéfiants. On parle de 4 000 enfants disparus et de 17 000 enfants non accompagnés, soit plus de 20 000. Et ces chiffres s'ajoutent aux 14 000 enfants qui auraient été tués depuis le début de la guerre. Souvenez-vous qu'en moyenne, nous avons chaque jour 10 enfants qui perdent une jambe ou deux. Cela vous donne une idée du type d'enfance qu'on peut avoir à Gaza.
Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRWA, qui évoquait aussi la situation en Cisjordanie où se déroule, selon lui, une guerre silencieuse. Il a été marqué en se rendant sur place par l'intensité des affrontements qui donne l'impression donc d'être au centre d'une zone de guerre. Suite de la visite du cardinal Parolin au Liban depuis dimanche, invité par la branche libanaise de l'ordre de Malte pour en visiter les œuvres caritatives, le secrétaire d'État du Saint-Siège prend part aujourd'hui à une rencontre islamo-chrétienne au siège patriarcal maronite de Kerké. Les chefs religieux musulmans et chrétiens ayant siège au Liban y sont conviés. Une réunion interreligieuse d'importance en ce pays, message de Terre Sainte, jadis chantre de la coexistence. Marwan Chenaoui, président de l'association libanaise des Chevaliers de Malte, nous explique comment cette solidarité est à l'œuvre sur le terrain entre chrétiens et musulmans.
Nous avons un motto. Je ne te demande ni ta race, ni ta couleur, ni ta langue, ni ta religion, mais dis-moi quelle est ta souffrance. Nous travaillons suivant ce motto avec toutes les communautés. Vous savez que nous en avons au Liban 18. Nous sommes dans toutes les régions du pays. Il existe un respect essentiel entre nous, chrétiens engagés, ordre religieux, et cet ensemble de communautés musulmanes dans toutes ses parties sunnites, chiites, druzes. Et la collaboration est totale parce qu'elle n'est pas basée sur la politique. Nous sommes apolitiques. Elle n'est pas basée sur l'intérêt. Nous n'en avons pas, si ce n'est que servir l'autre. Elle n'est pas basée sur soi-même. Nous n'avons aucun ego. Nous sommes au service de l'autre. Elle est basée uniquement sur le don de soi au service de la dignité de chaque personne, fût-elle chrétienne ou non chrétienne. L'amour est ce qui peut permettre à l'homme d'être victorieux. Et si les gens s'aimaient un peu plus dans le monde, surtout ceux qui nous dirigent, nous irions beaucoup mieux.
Des propos recueillis par Delphine Allaire et le secrétaire d'État du Saint-Siège rencontre rencontrera demain à Beyrouth le président de la Chambre des députés ainsi que le premier ministre sortant Najib Mikati. Avant de se quitter, les logos et les devises du voyage du pape en Belgique au Luxembourg fin septembre ont été dévoilés ce midi. La première étape au Luxembourg se fera sous le titre de « Pour servir » pour la Belgique. Seconde étape, la devise est « En route avec l'espérance ». Pour mieux vous faire une idée, rendez-vous bien sûr sur notre site internet, notre page Facebook ou notre compte X. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, toutes et tous, une excellente soirée.